Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France jusqu'à 20h sur Sud Radio. À partir de 19h30, place aux entrepreneurs, c'est avec Stéphane Soumier, justement sur Sud Radio et sur Bismart. Comment vivent-ils cette veille de déconfinement progressif que pourrait nous annoncer demain? Vous le vivrez en direct sur Sud Radio. Emmanuel Macron, vous en parlerez avec Stéphane Soumier à partir de 19h30. Mais Emmanuel Macron, justement, parlons-en tout de suite avec les voix de la politique. Comment se fait-il qu'Emmanuel Macron s'en sorte si bien dans les sondages? 41% de satisfaits dans le baromètre IFOP pour le journal du dimanche. C'est beaucoup plus au même stade de son quinquennat que François Hollande et Nicolas Sarkozy, ses deux prédécesseurs. Comment l'expliquer avec toutes les crises que nous avons traversées, des gilets jaunes à la crise du coronavirus? On en débat tout de suite avec nos deux invités. Et on commence à s'y habituer. On accueille avec plaisir le lundi soir Guillaume Bigot. Bonsoir à vous.
Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir.
Et bienvenue sur Sud Radio. Politologue, auteur du livre Populophobie, pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française. C'est publié chez Plon. Nous sommes également avec votre acolyte du lundi soir, Nicolas Corato. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle, c'est publié.
De l'élégance.
Oui, pourquoi pas.
C'est ce qui nous caractérise le lundi soir.
Absolument. Et puis l'éloquence est toujours élégante, alors que l'élégance n'est pas toujours éloquente. En tout cas, on est ravis de vous accueillir à nouveau ce lundi soir sur Sud Radio. Tous les deux, je le disais, Emmanuel Macron s'en sort bien, même très bien, dans les sondages, notamment dans ce baromètre pour le journal du dimanche, baromètre de l'IFOP. 41% de satisfaction de son action. 41% des Français sont satisfaits de son action. C'est plus 3 points. Par rapport au dernier baromètre, justement. Alors, 41% de satisfaits, ça reste minoritaire, évidemment, puisque vous avez une majorité de Français qui sont non satisfaits. En revanche, si on compare à François Hollande, au même stade de son quinquennat, il était à 27% de satisfaction seulement. Si on compare à Nicolas Sarkozy, c'était à peine mieux, c'était 32% seulement de satisfaction au même stade du quinquennat. Comment on explique, Nicolas Corato, après les gilets jaunes, après le confinement, après la pénurie de masques, après le reconfinement si impopulaire, que malgré tout, tant de Français trouvent que le président s'en sort bien. Nicolas.
On pourrait se poser la question à qui profite la crise? C'est toujours un peu la même question. C'est-à-dire que si vous regardez d'ailleurs la comparaison avec Hollande, on voit que François Hollande, au moment où la nation est attaquée par le terrorisme, où il y a les grands attentats de 2015, finalement, c'est à peu près la période où sa cote est au plus haut, si on accepte le début de son quinquennat, où sa cote n'est pas restée haut très longtemps. Donc, il y a un effet très certainement de ralliement autour du père de la nation, de cette figure tutélaire qui est encore le président de la République, de la Ve République en France, et que plus on a d'une vision très négative de l'avenir, plus on essaye de se raccrocher à un homme providentiel. Alors, je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense que Emmanuel Macron est un très grand communicant, peut-être un petit homme politique, mais c'est quelqu'un qui a mis la communication avant l'action politique. Il met les mots avant l'action. D'ailleurs, il s'en vante,
tout à fait,
de manière officieuse, mais il s'en vante quand même. Et donc, il faut croire que ces actions de communication commencent à payer. Et moi, je pense qu'il commence à prendre le crédit de tout ce qu'il a lancé à sa droite, c'est-à-dire des signaux qu'il envoie à ce que j'appelle moi le bloc bourgeois, c'est-à-dire ces Français qui n'aiment pas vraiment la politique, qui ont peur de l'avenir et qui pensent qu'avec Macron, ça changera, mais ça changera pour que rien ne change. Et que cela, finalement, même s'ils n'aiment pas beaucoup Emmanuel Macron, même s'ils ne sentent pas dans Emmanuel Macron une projection d'eux-mêmes, même s'ils n'auraient pas voté Emmanuel Macron en temps habituel, ils ont très envie de se rallier à son panache blanc, bleu, rose ou vert, puisque tout est en même temps, parce que ça les rassure pour l'avenir, et qu'ils ont été sensibles à certains des appels du président de la République dernièrement sur le séparatisme, l'islamisme, la sécurité. Bref, quand Macron fait du fillon, bah, ça rassure les bons bourgeois qui font remonter la côte du président de la République. Voilà ce que moi, je tire comme enseigne, c'est Macron profite de la crise et puis les actions de communication politique du président de la République commencent à être payantes.
Guillaume Bigot.
J'allais dire pas mieux, parce que il est très élégant avec son petit casque et il est très éloquent aussi, notre ami Corato, ce soir.
Je vous remercie.
Enfin, tous les soirs, d'ailleurs, tous les lundis soirs. Non, le même diagnostic que lui, c'est-à-dire qu'en temps de crise, toute crise va favoriser le pouvoir en place. Et là, sans qu'il y ait un bémol, mais enfin, comparé, on dit souvent c'est se consoler. Oui, enfin, sauf que si Macron se compare à Merkel, si Macron se compare à Boris Johnson, si Macron se compare même à Bolsonaro, il va pas se consoler vite. Il va se désoler, au contraire. Parce que, voilà, Madame Merkel, elle est à 75%, entre 75 et 85% d'opinion favorable. Donc, c'est très mauvais, en réalité. C'est un score pathétique, 40% pour quelqu'un qui est dans une crise très grave. Ou en plus, deuxième considérant, alors je ne vais pas pousser le bouchon trop loin, mais François Mitterrand, qui était vraiment en dessous de tout, quand il y a eu la guerre du Golfe, il est remonté aussi comme un bouchon à la surface. Ça a été dit tout à l'heure, Monsieur Hollande, qui était une sorte de figurant à la présidence de la République. Il y a une anecdote, je ne vais pas trahir de secret, mais il y a deux amis à moi qui avaient été des conseillers de la présidence de la République du temps de Mitterrand. Ils ont été conviés par François Hollande. Et ils sont sortis de cette réunion, ils m'ont appelé l'un et l'autre, ils étaient totalement comme sous l'effet de l'alcool, parce qu'ils avaient vu François Hollande était rentré dans la salle, vous savez, il y a un huissier qui dit « le président de la République », alors tout le monde se lève, et puis François Hollande était rentré, il a dit mais de qui parle-t-on ? Tout le monde s'était esclaffé. Donc François Hollande, volontairement, il ne voulait même pas assumer la posture de président, il se disait président normal, souvenez-vous. Bon, peu importe, on ne va pas s'étendre sur François Hollande, mais François Hollande, avec tous ses travers, il était tout de même remonté au moment des attentats, pour la même raison. Donc ça, c'est la première raison qu'a évoqué Nicolas Corato. On est en situation de crise. La deuxième raison, ça va un peu dans son sens, mais ce n'est pas tout à fait la même argumentation, c'est que je pense qu'il n'y a plus de parti socialiste et il n'y a plus de républicains. Ils ont été soufflés, c'est ce qu'il appelle le bloc bourgeois, le bloc élitaire. C'est vrai, les gens qui veulent le statu quo, qui veulent l'Europe, qui veulent le marché, qui veulent les réformes, qui veulent garder leur bas de laine, etc., eh bien, ils sont comme des petits poussins, ils sont derrière Emmanuel Macron. Donc voilà, et ça, aucun président avant lui n'avait capitalisé là-dessus, sur finalement les deux bouts de l'omelette, quoi, sur le bloc bourgeois de gauche, le bloc bourgeois de droite, il les a réunis. VGE disait que ça faisait 2 Français sur 3, non, ça fait 4 Français sur 10, et encore, il faut vraiment qu'il y ait une crise pour que ça fasse 4 Français sur 10, ça fait plutôt 2,5 Français sur 10.
Enfin, alors ça c'est pour la comparaison avec François Hollande, mais c'est pour ça aussi que c'est intéressant de le comparer à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il a vécu la crise de 2008, on l'a dit et redit, la plus grave crise financière que le monde ait jamais vécue, et c'est vrai que c'est tombé quand il était aux affaires, il n'était pas aussi haut, Nicolas Sarkozy,
non, il n'était pas vrai, aussi haut. Non, c'est vrai, mais alors, il y a quand même, là, on peut trouver des raisons qui me semblent justifiées, c'est-à-dire que, et on revient sur ce que disait Nicolas Corato, il a cette communication qui est vraiment un peu boursouflée quand il joue au chef de guerre, et en fait, jouer au chef de guerre, ça pouvait paraître un peu grotesque, mais en réalité, si on réfléchit, c'était relativement malin, parce qu'en comparant le virus à une guerre, Il a bien souligné le fait que finalement, d'abord il fallait faire bloc et puis on était agressé de l'extérieur. C'était un corps étranger qui nous agressait. C'est pas complètement faux, c'est un virus. Mais ça aurait pu révéler. Et moi, je pense que ça, sur le long terme, ça va servir de révélateur de toutes les failles de cette stratégie mise en œuvre depuis 30-40 ans. L'Europe, le marché, les réformes, etc. Puisque c'est précisément ça qui a détruit les lits, par exemple, d'hôpitaux, entre autres. Et les stocks de masques pour complaire à Bruxelles, etc. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que sa communication, Corato a raison, est habile. Sa communication habile, et donc, par rapport à Sarkozy, lui, il n'a pas eu un événement extérieur. La crise de 2008, ça a paru comme un dérèglement du système financier. Et M. Sarkozy, parce qu'il était à droite, parce qu'il était pour la globalisation, parce qu'il était pour, disons, cette marchandisation du monde, c'est apparu comme le dérèglement de la politique qu'il portait. Donc ça, ça me paraît être une grande différence.
C'est pour ça qu'il avait perdu des voix sur sa gauche, en tout cas pour Nicolas Sarkozy. Mais revenons avec Nicolas. Nicolas, vous disiez justement, Emmanuel Macron, il a derrière lui plutôt un bloc de droite, en tout cas qui le soutienne, une espèce de parti de l'ordre, hein, si je paraphrase un peu vos propos. Mais ce parti de l'ordre, il n'avait pas beaucoup de raisons de laisser Nicolas Sarkozy à la même époque. Et pourtant, il était beaucoup moins derrière Nicolas Sarkozy que derrière Emmanuel Macron.
Mais parce que je pense que Nicolas Sarkozy était beaucoup plus en rupture, d'ailleurs c'était le mot qu'il caractérisait et qui lui servait à caractériser son action, était beaucoup plus en rupture avec le bloc bourgeois que ne l'est Emmanuel Macron. Je pense que des deux, le plus conservateur, le plus réactionnaire, c'est Emmanuel Macron. Le plus réformiste, même si ce ne sont pas des réformes qu'aime beaucoup Guillaume Bigot, c'était Nicolas Sarkozy. Il y avait chez Nicolas Sarkozy quand même cette volonté de choquer, de provoquer, y compris son propre électorat, ce qui lui a coûté d'ailleurs assez cher, notamment sur les grandes valeurs. Chez Emmanuel Macron, on a un fonctionnement finalement très orléaniste, avec quelqu'un qui sait se rapporter partie par partie une partie de la droite. Donc moi, je crois que Emmanuel Macron est beaucoup plus malin dans son fonctionnement à droite que ne l'a été Nicolas Sarkozy vis-à-vis de son propre électorat. Finalement, Nicolas Sarkozy, il a préparé les fractures à venir de la droite, que n'a fait qu'exacerber, et Emmanuel Macron n'a eu qu'à pousser le tout pour que ça tombe. Et aujourd'hui, il en récolte les morceaux un par un, et de manière assez habile. La vraie question, c'est tout ça pour ça. Tout ça pourquoi ? Tout ça pourquoi ? C'est-à-dire, moi, je pense qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a de fortes chances d'être réélu en 2022, notamment si la pandémie se termine plus ou moins, que le vaccin arrive, que les gens vont oublier. En quelques mois, on oublie vite. Hein. On oublie très,
avec
très
du
vite.
Avec du chômage qui risque quand même de grimper en flèche.
Ce qu'on a subi dans sa chair, dans son sang ou dans son emploi ou dans sa vie sociale. Donc, les Français ont la capacité, comme tout peuple, à oublier. C'est ce qu'on appelle la résilience. C'est un concept qui plaît beaucoup à Guillaume. Et je pense que derrière ça, il y a effectivement un boulevard qui s'ouvre pour Emmanuel Macron, qui sera sorti victorieux de cette crise. Moi, il y a un dernier point quand même qui pourrait expliquer également pourquoi est-ce que le bloc bourgeois fait bloc, c'est le cas de dire, derrière Emmanuel Macron. C'est quand même qu'Emmanuel Macron, c'est l'homme des bonnes et des mauvaises nouvelles. C'est-à-dire, il a pris position, il a pris une place qui est formidable. Il est capable de vous dire « restez chez vous ». Et puis, c'est le même qui va vous dire « je vous libère ». C'est-à-dire qu'on est dans un syndrome de Stockholm, en fait. Tout ce pays a basculé dans un syndrome de Stockholm. Et donc, il est fort possible que quand Emmanuel Macron nous dira « je vous libère », on se mette tous à le remercier et à voter pour lui. Donc, il faut pas prendre ça à la légère. Ce syndrome de Stockholm, nous en sommes tous plus ou moins victimes. Nous en sommes tous plus ou moins les otages aujourd'hui. Et je suis pas persuadé qu'on n'aura pas cette image de gratitude vis-à-vis de notre président qui aura été suffisamment bon pour nous permettre de revivre démocratiquement notre vie d'avant.
Alors justement, la transition est toute trouvée, mon cher Nicolas. Qu'est-ce que peut annoncer Emmanuel Macron demain à 20h? Vous le vivrez d'ailleurs, vous qui nous écoutez en direct sur Sud Radio, édition spéciale avec Les Vraies Voix. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron peut faire pour continuer à passer manifestement sans encombre son quinquennat? On en parle avec vous, Guillaume Bigot et Nicolas Corato, dans quelques instants. Ce sont Les Voix de la Politique. Vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique.
Les voix de la politique sur Sud Radio, comme tous les lundis soirs, avec Guillaume Bigot et Nicolas Corato. Emmanuel Macron, qui s'en sort plutôt pas mal par rapport à ses prédécesseurs dans les sondages, malgré les crises qui se multiplient alors qu'il est au pouvoir. Justement, demain, Emmanuel Macron s'exprimera en direct, y compris sur Sud Radio d'ailleurs, à partir de 20h, pour nous annoncer un assouplissement du confinement. Alors ne vous attendez pas à être libéré, à dire adieu à votre attestation, à pouvoir aller où vous voulez et à combien vous voulez y aller. Non, ce sera un assouplissement vraiment très progressif du confinement qui se ferait a priori en 3 étapes. À partir du 1er décembre, c'est dans une semaine, puis encore une couche pour les congés de fin d'année, puis à partir de janvier 2021, ça ce serait pour les restaurants et les cafés qui a priori n'auront pas le droit d'ouvrir pour les fêtes. Bref, un assouplissement très très progressif. Comment Emmanuel Macron peut continuer à, ménager sa popularité tout en annonçant des nouvelles qui sont quand même particulièrement lourdes pour l'économie française et pour la vie sociale du pays, Guillaume Bigot?
D'abord, depuis le démarrage de cette crise sanitaire, vous aurez remarqué qu'ils se réservent toujours le morceau de choix. Ils se réservent toujours d'annoncer les bonnes nouvelles. Donc là, si, alors, j'entends.
C'est lui qui a annoncé le confinement aussi, hein, quand même.
Oui, c'est ce qu'on avait, c'est ce qu'on on pourrait m'objecter à juste titre. Enfin, il a un peu dramatisé l'événement, il a annoncé le confinement et puis il a laissé à ses collaborateurs, de manière assez habile d'ailleurs, on ne peut pas lui faire cette critique, le soin d'annoncer vraiment les mesures qui fâchent, les plus pénibles, etc. Et souvenez-vous de ce duo qu'il avait formé avec Édouard Philippe, hein, c'est lui qui avait pris le parti du déconfinement. Donc là, il veut et il restera, à mon avis, jusqu'au bout de cette crise sanitaire, dans l'opinion publique. Alors, certes, il apparaît comme quelqu'un de raisonnable, qui prend tout de même des mesures qui s'imposent, mais il veut, il tient à faire savoir qu'il retient un peu les chevaux, que s'il n'était pas là, s'il leur laissait la bride sur le dos, tous ces technos,
lui-même les médecins nous enfermeraient dans notre cave, quoi.
Exactement.
C'est un peu le rôle qu'il joue,
ça,
qu'il essaie de jouer.
Il tient à le faire savoir de la même façon qu'il se réserve les bonnes nouvelles. Et vous allez voir qu'il va nous parler d'alléger un peu les contraintes de Noël, etc. Bref. Donc, s'il parle, c'est qu'il a plutôt des choses qui vont favoriser sa cote de popularité à nous dire. L'autre chose qui est très importante à comprendre, me semble-t-il, c'est, je reviens là-dessus, c'est pas à cause des crises. C'est grâce aux crises qu'il maintient un minimum de popularité et pas toutes les crises. C'est vrai, les gilets jaunes avaient fait chuter. C'est vrai, les réformes avaient fait chuter. Et donc, il faut aussi bien souligner un point, c'est que c'est justement parce qu'il ne fait plus rien qu'il devient un peu moins impopulaire.
Plus
c'est
de
précisément parce que c'est devenu un pot de fleurs. C'est précisément parce qu'il est obligé de dire le contraire de ce pourquoi il avait été élu. C'est parce qu'il est obligé de parler de souveraineté, parce qu'il est obligé de parler de souveraineté industrielle, parce qu'il est obligé de parler de séparatisme, parce qu'il est obligé de parler de nation. Ça lui fait mal à la bouche, sans doute, mais il prononce les mots, il dit les mots. Alors évidemment, les gens, et c'est ça sa force, ça a été souligné, c'est un c'est quelqu'un qui va accompagner les petits vieux dans un autocar qui va au Mont-Saint-Michel et qui va leur vendre des assurances. C'est ça, Monsieur Macron. Donc là, il est dans ce domaine-là. Il a un art très consommé. On ne peut pas lui nier ça. Ce serait de la mauvaise foi. Il est très fort pour faire ça. Mais c'est un grand comédien et il arrive à dire les mots. Alors, ça ne correspond pas du tout. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec l'enchaînement que vous faites sur le fait que ça va lui porter chance à l'élection présidentielle. C'est pas du tout garanti, parce que s'il y a un décodage et un décryptage politique, c'est parce que si les gens se rendent compte que derrière les mots, il y a à peu près le contraire dans ses intentions et dans ce qu'il veut faire. Là, finalement, j'insiste, il a bénéficié d'un effet pause. La pandémie, la crise sanitaire, a arrêté la machine bruxelloise qui est le vrai logiciel d'Emmanuel Macron, en réalité.
À situation exceptionnelle, mesures et sondages exceptionnels. Effectivement, Nicolas Corato, alors on parle d'Emmanuel Macron au pouvoir et face à une crise effectivement qu'on n'avait jamais vue. Comment d'autres présidents se seraient débrouillés? Quelles erreurs a-t-il pu faire, des erreurs plus ou moins pardonnables que d'autres n'auraient sûrement pas faites d'après vous?
C'est compliqué de répondre à votre question. Moi, j'ai pas l'impression que ça aurait été différent. D'abord parce que cette crise sanitaire, c'est d'abord une crise administrative, c'est une crise de l'exécutif, c'est une crise de la technostructure. Et donc, cette technostructure, cette haute administration, quel que soit le président de la République, elle aurait été là et elle aurait été incapable, comme elle l'a été, d'appréhender cette crise. Et d'ailleurs, je pense que la prochaine étape, après les masques, après les tests, ce sera le vaccin, et qu'on va voir la haute capacité de nos hauts fonctionnaires à vendre, entre guillemets, le vaccin à la population et à mettre en place les campagnes de vaccination. Et moi, je m'attends au pire, malheureusement, parce que je suis plutôt pro-vaccin et que j'ai envie qu'on en sorte, moi, de cette pandémie.
Et vous pensez que
qui
très peu de Français accepteront de se faire vacciner?
Je pense que ça n'est pas une question de responsabilité des Français, c'est une question de la responsabilité de l'État, de faire la pédagogie et l'information qu'il faut, d'associer les citoyens comme il le faut pour que cette campagne de vaccination soit un réel succès. Et pour revenir complètement à votre question, oui, je pense qu'aucun autre président n'aurait fait mieux ou n'aurait fait moins bien. On aurait été en France dans une situation de quasi-échec, d'échec médiocre en termes de réponse face à cette pandémie, tout simplement parce que, comme le dit souvent Guillaume, ça fait des années qu'on prépare ce semi-échec. Ça fait des années qu'on a désarmé, pour reprendre l'allégorie chère au président de la République, qu'on a désarmé nos hôpitaux, nos services publics et, il faut bien le dire aussi, nos administrations sociales, économiques, qui sont dans l'incapacité aujourd'hui de répondre.
Petite objection, Nicolas. Pardon, je vous ai coupé, mais c'était pas l'objectif.
Non, mais je vous en prie.
Et vous dites, ça fait des années qu'on a désarmé nos services publics. Prenons par exemple un pays comparable à la France qui s'en sort beaucoup mieux, l'Allemagne. Effectivement, beaucoup, beaucoup moins de morts qu'en France et en plus beaucoup moins de confinement. Pourtant, la moitié des hôpitaux, ils sont privés. Donc, on peut pas parler de services publics. Il y a beaucoup plus de services publics de la santé en France qu'en Allemagne.
Vous avez raison. Simplement, en Allemagne, les hôpitaux privés sont tenus par une politique des Länder qui associe le privé et le public. Moi, je ne suis pas un partisan du public pour le public. Je dis simplement qu'en Allemagne, il y a une politique publique de santé qui est déclinée au niveau des Länder. Je dis simplement qu'en France, on a une politique publique nationale qui est déclinée dans plus beaucoup d'endroits, puisque nos hôpitaux ont été décimés par une série de réformes absolument délirantes, et notamment par ces histoires de paiement à l'acte, de tarification à l'acte, qui sont une aberration pour tous les médecins. Tous les médecins vous disent depuis des années que c'est une aberration, et depuis des années, les hauts fonctionnaires expliquent qu'il faut continuer la tarification à l'acte dans les hôpitaux. Donc, je pense qu'avec ces fondamentaux-là, n'importe quel autre président de la République aurait fait à peu près la même chose qu'Emmanuel Macron, c'est-à-dire patauger dans la semoule et gérer cette crise au jour le jour. Donc, il n'y a pas d'effet nocebo ou placebo pour Emmanuel Macron à la tête du pays en termes d'épidémie.
En fait, mention passable, c'est ça que vous lui donnez pour le coup, désespérément passable, si je paraphrase un peu votre raisonnement, j'aimerais vous remercier.
Ça prouve la dépolitisation de ce pays.
Tout à fait.
Macron a dépolitisé les ministères, mais ça fait des années qu'on dépolitise ce pays. Là, en fait, vous avez des hommes politiques qui sont interchangeables, ne reste que l'administration et la technostructure qui fait ce qu'elle veut et qui fait ce qu'elle peut également avec les moyens qu'elle a. Et aujourd'hui, l'État n'a plus de moyens et on assiste quand même à la chute de l'État.
Merci, en tout cas, de finir sur cette note de pessimisme, il faut le reconnaître. Nicolas Corato, merci beaucoup d'être intervenu comme tous les lundis soirs, fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès chez Eredium. Merci Guillaume Bigot, politologue, auteur du livre Populophobie, pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française. C'est publié chez Plon. Merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio, la suite des vraies voix qui font bouger la France. Parlons vrai avec les entrepreneurs sur Bismart et sur Sud Radio. C'est avec Stéphane Soumier dans quelques instants. Comment les entrepreneurs s'attendent à un déconfinement? On en parle tout de suite sur Sud Radio.